Et on a autour de la table les wagons qui sont là après leur atelier d'écriture. Et pour la suite, ben, je laisse Alexandra présenter tout ça.
Bonjour à tous, enfin re à vous. Et bonjour Anne-Marie et Laetitia. Donc,
bonjour Alexandra.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien. On est en pleine forme.
Oula, très bonne journée d'écriture alors. Alors avant de parler de cet atelier, nous allons faire une petite présentation donc, d'Anne-Marie, qui est la présidente de l'Association des Wagons depuis 2002, donc Association de Saint-Bran. Donc elle va nous présenter l'historique des wagons. À toi Anne-Marie.
Donc les wagons au départ ont été créés en 2002 pour faire un spectacle de théâtre de Robert Pinget Architruc. Donc c'était un décor à la base. Ils ont été implantés à côté de la gare de Tours. Et pendant une dizaine de jours, il y a eu ce spectacle qui a été produit au mois de mai 2002. À l'issue de ces représentations, donc les wagons devaient retourner à la déchetterie, en fait, puisque le spectacle était fini, le décor se démonte, etc. Et puis, Anne Champigny, qui était à l'époque attachée à la culture de Saint-Bran, a dit « c'est dommage, il faudrait en faire une salle de spectacle ». Et donc, du coup, on a été en résidence pendant 3 ans à Chambray-les-Tours. Et cette salle est devenue salle de spectacle avec une programmation musique, théâtre et des créations aussi de théâtre. Et puis, à l'issue des 3 ans, donc, a fallu déménager puisque ce théâtre, constitué de 3 wagons, est un théâtre mobile finalement. Et donc là, nous sommes allés à Saint-Bran. Le maire de Saint-Bran, Daniel Ballanger, à l'époque, nous a gentiment accueillis. Et depuis 2005, nous sommes à Saint-Bran et l'association des wagons existe depuis 2015. Et nous produisons des spectacles, des concerts, du théâtre. Et puis, nous avons ouvert aussi à des ateliers d'écriture qui ont beaucoup de succès, que nous faisons tous les 2 mois. Et puis aussi à des cours de théâtre. Cette année, nous avons fait aussi la quinzaine du livre. Enfin, on essaie d'élargir dans différents domaines culturels pour, parce que c'est une passion qui nous anime, nous, l'association des wagons. Il y a aussi une centaine d'adhérents. Qui nous aide bien sûr à entretenir toute cette culture très importante en milieu rural.
Donc depuis l'année dernière, l'association propose des ateliers d'écriture avec Laetitia comme intervenante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un atelier d'écriture, Laetitia ?
Donc voilà, un atelier d'écriture, c'est un moment privilégié qui est proposé, qui est offert pour écrire. Voilà, comme le dit. Donc, ça n'a rien à voir avec l'école. On n'apprend pas à écrire. C'est des pistes qui sont proposées. On joue avec les formes, on joue avec les genres. Après, il y a autant de manières d'animer un atelier que d'intervenants, bien sûr. Moi, ce que j'aime proposer, c'est de partir sur des genres littéraires. Qui peut être la nouvelle, la poésie, le conte, le genre noir, enfin bon voilà, et un thème. Par exemple, depuis l'année dernière, on a eu l'occasion. Alors, la formule l'année dernière au wagon n'était pas tout à fait la même. C'était des ateliers d'écriture sur un week-end, donc samedi et dimanche. Donc évidemment, on avait le temps de déployer. Pour arriver à une nouvelle. Donc il y a des étapes d'écriture, des jeux d'écriture, des contraintes d'écriture, scandées par des moments de lecture, de mise en commun des textes par les participants. Et puis c'est évolutif sur les 2 jours et on arrive à chacun à une nouvelle. Là, cette année, depuis septembre, donc ces ateliers samedi toute la journée, je procède aussi par thème, je propose des thèmes et les formes inévitablement vont être un peu plus courtes, mais ce qui me plaît moi dans les ateliers d'écriture, c'est de proposer des influences littéraires, des images, des modèles, des exemples, et puis à chacun libre d'y ajouter sa partition personnelle. Aujourd'hui, le thème était le rire. Nous avons aussi écrit sur la métamorphose, sur l'exil,
le rêve.
Le prochain thème en février sera la gourmandise. Voilà.
Et du coup, est-ce que tout à l'heure, tu... Alors, j'ai pris l'habitude de tutoyer tout le monde aujourd'hui.
Ah oui, non, c'est pas grave, on se tutoie.
C'est super. Tu disais donc qu'il y avait aussi un style d'écriture, du coup, autour du rire. Est-ce que vous avez travaillé sur un style?
Oui, alors aujourd'hui, j'ai beaucoup accentué sur l'ironie et la satire.
D'accord.
Voilà, donc c'est un ton qui était donné, parce qu'évidemment, le rire... le rire à plusieurs niveaux, voilà, c'est très vaste. Et aujourd'hui, vraiment, ce que ma proposition a été, le défi a été vraiment très bien et très joliment et très, de manière très amusante, très bien relevé. C'était d'un point de vue ironique et satirique. On a rebondi sur des personnages misanthropes. Voilà.
D'accord. On aura l'occasion d'écouter ça tout à l'heure. Oui.
Et Anne-Marie, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en place ces ateliers au wagon à Saint-Brand ?
Ces ateliers d'écriture, eh bien, d'ailleurs, c'est une rencontre avec Laetitia que j'avais rencontrée depuis fort longtemps. Et on s'est retrouvés un jour dans la rue. On a discuté de cette envie, puisque Laetitia m'a dit qu'elle faisait des ateliers d'écriture. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas ? Voilà, et je trouve ça très intéressant. On arrive et c'est vraiment pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, mais moi, je ne suis pas capable. » Si tout le monde est capable d'écrire, hein, là, on est aujourd'hui, on était une dizaine et tout le monde produit des textes. On a les mêmes consignes, les mêmes contraintes et c'est vraiment des textes très différents. Hein, et donc voilà, chacun s'exprime, chacun a son style, sa manière et c'est ça qui est vraiment très intéressant et tout. Les textes sont réussis. Voilà. Les premières nouvelles qu'on avait écrites, on en a fait d'ailleurs un recueil. Et sur la métamorphose aussi, on essaiera d'en faire un recueil. Donc n'hésitez pas à venir, à vous informer, à essayer. Voilà.
Quelle est la fréquentation moyenne par atelier et le prix d'un atelier du coup ?
Alors la fréquentation moyenne, c'est à peu près une dizaine, voilà, parce qu'il ne faut pas être plus non plus. Parce qu'à chaque fois que Laetitia nous donne un exercice, il y a une mise en commun par la lecture de son propre texte. Donc on a commencé ce matin à 10h, on fait une pause pour le repas, on a repris à 2h jusqu'à 5h30. Donc voilà.
Et vous enchaînez avec la radio.
Et on enchaîne avec la radio, donc c'est formidable. Hein, et le prix, donc c'est 35€ pour la journée. Voilà.
Environ 6 heures du coup.
Voilà, à peu près.
D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, donc, vous avez lieu l'atelier autour du rire. Et quelle piste avez-vous donné pour démarrer cet atelier, Laetitia ?
Alors, j'aime bien commencer, comme dit Anne-Marie, je voulais souligner parce qu'elle a vraiment tout à fait raison, c'est-à-dire que personne n'est mis en difficulté, et même des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'écrire sont toujours, par expérience, hein, parce que ça fait des années que j'anime des ateliers dans des structures très diverses, avec des populations, si je peux dire ça comme ça de manière générique, très diverses, il n'y a pas de difficulté à écrire, puisque moi, mon travail est de donner des propositions. Hein, donc il y a un cadre. Et aujourd'hui, on a commencé par des inventaires. Ça, c'est un procédé qui marche très très bien, qui peut se décliner de manière très vaste. Mais aujourd'hui, il s'agissait de commencer par faire des listes de « j'aime » et « je n'aime pas ». Alors, en sachant qu'au tout début, hein, chacun des participants devait créer son avatar, un personnage fictif, en jouant avec les lettres de son nom et de son prénom, donc en faisant un anagramme de ses noms et prénoms. Et donc, il y a déjà cette mise à distance avec ce personnage qui allait tenir toute la journée. Parce qu'évidemment, moi, j'ai mon fil. Alors après, j'improvise aussi selon le déroulement de la journée. Je reste ouverte à l'évolution des choses. Mais en tout cas, chaque participant, à partir de ce personnage, ou en tout cas ce qu'il entrevoyait déjà, a commencé à faire des listes de « j'aime, j'aime pas ». Et ensuite, j'ai proposé d'écouter un début de pièce de théâtre d'une dramaturge allemande qui a écrit une pièce qui s'appelle Mademoiselle Agnès, Rebecca, je ne saurais plus dire le nom, là je ne l'ai pas, et qui elle commence sa pièce de théâtre par son personnage misanthrope féminin par « J'en ai marre d'eux ». Voilà, donc ça a été les premières propositions.
Alors, vous voyez autour de la table que ça s'agite, ça.
Oui.
Ça, on vient de voir que le logiciel Oui. Alors moi, c'est enregistré sur Audacity, donc il n'y a pas de souci, on aura quand même l'émission. Le logiciel qui nous diffuse en direct, j'ai l'impression qu'il a décidé de s'arrêter. On le fait tourner depuis 19h hier, donc peut-être qu'il a décidé que c'était un peu trop, ce que je peux comprendre.
Il n'a même pas fait les 24 heures.
Il n'aura pas fait les 24 heures à 45 minutes près, c'est quand même fort dommage.
J'ai continué mes questions, parce que c'est intéressant tout ça, quand même. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes imprégnée aujourd'hui de texte pour tourner autour de cet atelier du rire.
C'est-à-dire, tu peux...
Est-ce que vous êtes imprégnée de texte?
Oui.
Oui. Lesquels?
Oui. Alors, comme je disais, sur les j'aime pas, j'utilise très souvent Pérec.
Nous sommes en direct. Super. Rebonjour à nos auditeurs du 99.1 FM qui nous ont perdus pendant quelques instants. Vous pourrez retrouver l'émission et les quelques minutes que vous avez perdues sur le site www.la-rage.fr. Oh, c'est difficile pour vous ce soir, pour nos derniers invités.
On comprend, c'est votre dernière ligne droite, donc c'est sûr que c'est pas facile.
Alors, on reprend.
On en était au texte. Pardon.
Alors, pour les références littéraires que j'ai utilisées aujourd'hui, donc Georges Perec est un grand maître pour les ateliers d'écriture, puisque c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé avec les contraintes au fur et à mesure de ses créations. Georges Perec et aussi Roland Barthes, moins connu comme... c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup joué avec la langue. Donc j'ai lu les « J'aime, j'aime pas » de Roland Barthes et de Perec. Et ensuite, le niveau d'après, l'étape ensuite a été... Je n'ai plus mes mots... avec une dramaturge autrichienne qui s'appelle Rebecca, je ne sais plus, je n'ai pas la...
Et nous, on n'a pas retenu non plus
Schrischkraft, quelque chose comme ça. Et qui, en tout cas, si vous voulez retrouver, il faut chercher Rebecca, dramaturge, et Mademoiselle Agnès, qui est le titre de sa pièce, et qui a réinventé le misanthrope de Molière. Et la pièce commence par un inventaire de son personnage, Mademoiselle Agnès, complètement blasée, donc on s'en doute, comme tout bon misanthrope, du monde qui l'environne, qui là est le monde de l'art. Et elle commence par une diatribe déclinée sur les « j'en ai marre de, j'en ai marre de ». Je leur ai fait écouter en fait le début de la pièce radiophonique.
De Rebecca Krischeldorf.
Oh merci, Krischeldorf, merci beaucoup. Voilà, alors c'est vrai que habituellement je lis beaucoup de textes. Là sur les journées, c'est vrai que les temps sont plus courts, mais alors d'autres références littéraires notamment ont été La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Quoi d'autre, de quoi je vous ai parlé? J'ai aussi utilisé pour l'art du portrait l'ambivalence de soi, Montaigne, Diderot.
Voilà de bons exemples,
etc.
Et est-ce que je vois que vous êtes accompagné donc de personnes qui ont participé à cet atelier
tout autour de nous,
et est-ce qu'ils veulent bien nous lire leur production?
J'ai l'impression que tout le monde est là avec ses feuillets prêt à nous faire un peu
je
de lecture.
Je vous laisse prendre le micro, madame, et
je vous
casque.
Propose le temps qu'on installe ça, on peut mettre un petit morceau.
Je sais pas, on est prêt là.
On est prêt, alors
on est
c'est
prêt,
parti,
hein,
on
taquet,
est prêt.
Nous, hein,
au taquet.
Voilà. Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue sur la rage.
Alors ouais, rapprochez un peu le micro pour qu'on vous entende bien.
Je vais vous présenter et enfin, si vous avez envie de donner votre vrai prénom pas seulement votre anagramme.
Alors moi je m'appelle Karine. Voilà, donc je vais vous lire le tout dernier texte qu'on a écrit. Donc moi, naine marquis, descendant d'une lignée d'aristocrates lauchois, je ne comprends pas que l'on puisse être sensible à la pauvreté. Après tout, la misère fait partie de la vie. Sans SDF, on ne pourrait pas soulager son âme à donner un morceau de pain. Notre action est essentielle et l'un et l'autre vont ensemble. Et ces gens des soi-disant mécènes qui sortent leurs chéquiers pour qu'on expose des tableaux qui sont nuls à chier, ils s'extasient devant la peinture d'aujourd'hui, mais quel est le peintre qui égale le grand Picasso ? Tout ça pour être invité au vernissage et s'agenouiller devant du barbouillage de première classe. Dans ce cas, où place-t-il la peinture de Claude Monet? Ont-ils les yeux pour admirer impression soleil levant? Il leur faudrait des binocles à double foyer. Il est naturaliste, hein, quelle bande de fainéants. Ils passent leur journée à sillonner la campagne et restent pendant des heures à contempler un arbre. C'est vraiment des bons à rien. Comme si un arbre avait besoin d'être étudié. Il peut crever, je m'en fous. Je hais la bruyère, les champs de blé, toutes sortes de feuillages. L'odeur d'une ferme me fait vomir. Je déprime à l'idée de voir une vache. Moi, c'est l'industrie. Il faut du rendement. Et mes salariés, on peut étudier. Comme ça, ils me coûtent moins cher. Quoi ? Je suis assez gentille d'employer des cancres. Ils travaillent dans une usine modèle, tout de même. Quand je pense qu'ils sont pour certains romantiques avec leurs femmes, rien ne vaut deux ou trois maîtresses. L'adultère, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je trompe ma femme autant que je peux. Évidemment, elle ne devine rien. Elle est trop bête. Heureusement, elle avait un bon compte en banque. Sinon, elle serait sûrement une vieille fille. Avec sa verrue sur le nez, qui aurait voulu d'elle? Sûrement pas moi. Mais bon, j'ai agrandi mon usine. Elle mérite un peu de compassion. Savez-vous qu'elle adore Mozart? Quel imbécile, celui-là. Pour finir dans une fosse commune, il ne faut pas être intelligent. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il ait tout écrit tout seul. C'était un fou. Lorsqu'on écoute correctement sa musique, on ne comprend rien. C'était un idiot qui a eu juste de la chance comme Ravel. Des bons à rien, ces deux-là.
Bravo. Bravo, ça me fait penser. Alors, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai regardé sur Internet un essai de Jonathan Swift sur comment régler la famine en Angleterre, mangeant des enfants. Voilà, c'était la solution à la famine. En fait, le plus simple, c'est juste... Bah écoutez, on a de la nourriture juste là. Mangeons les enfants, ça réglera tous les problèmes du monde. C'est ça, éloge du cannibalisme de Jonathan Swift. Merci, est-ce qu'on a une autre, quelqu'un d'autre qui veut bien venir lire son texte?
Moi, je veux bien lire un texte sur Jean Neymar, justement. Alors, j'en ai marre d'être considéré comme un malentendant, pas à cause de mon ouïe, j'ai une très bonne oreille. Non, mais peut-être parce que c'est plutôt un mal comprenant. Tous les jours, on nous balance une nouvelle taxe, une nouvelle loi, un nouveau changement qui nous appauvrit. Non, mais entendez bien, ces nouveaux mots qui nous arrivent chaque jour, fusion, un vocabulaire nouveau pour changer le monde, mutualisation, diversité, solidarité, mais rien ne change. Hein, voilà, ils ont même inventé des mots comme macronisme, macronite. Voilà, ce serait peut-être une nouvelle maladie d'ailleurs. Vous ne connaissez pas le champignon Macron qui pourrit la vie? J'en ai marre. Et aujourd'hui même, il revient sur la scène, celui-là. Il y a l'ammoniste. Non, moi franchement, je préfère les harmonicistes. On se croit au théâtre. Ils montent sur l'estrade, ils prennent le micro. Des cours de diction pour se protéger les cordes. Et j'en ai marre qu'ils en jouent des cordes. De l'instabilité, de la flexibilité, de la sensibilité. Pour qu'on soit de plus en plus raide, de plus en plus rincé, de plus en plus humilié. Sur la corde raide, quoi. J'en ai marre de tous ces mecs et ces nanas aussi qui exhibent de beaux costumes. Le bleu, pas trop foncé, pas trop clair. Des vestes à la coupe moderne. Il faut appartenir au nouveau monde. Mais je vous le demande, quel nouveau monde ? Mais j'en ai marre de cette démocratie à l'envers où tout est décidé sans nous. J'en ai marre qu'on nous convoque à une réunion post-it où on décline nos idées scotchées sur un mur et après envoler les petits papiers poubellisés. J'en ai marre avec leurs bureaux d'études qui coûtent la peau des fesses et qui entaillent le budget de réalisation de nos projets. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des incapables, des irresponsables.
Bravo, merci pour cette lecture. Pour cette lecture.
C'est pour rire, c'est pour rire.
Bien
ça.
Vivante. Et c'est bon, il faut bien approcher le micro pour qu'on vous entende bien.
Alors, moi, je vais lire un texte. Je ne m'entends pas, c'est normal.
Vous ne vous entendez pas du
non.
Tout. Alors.
Je te rapproche.
Alors, le micro est allumé, je le vois d'ici. Moi, je vous entends bien. Donc, bon, si vous ne vous entendez pas, c'est que le casque est peut-être débranché. Donc, je fais le tour de la table, je check ça.
D'accord. Voilà.
Hop. Est-ce donc, que vous entendez mieux ou pas?
Là, oui, tout. C'est okay. Bon.
Super. Donc, on vous écoute.
Alors, c'est également un texte sur Jean Neymar. J'en ai marre de ces bonnes pensées judéo-chrétiennes. Et j'aime ton prochain et écoute ton voisin. Marre de cette carcasse toute rétrécie et ratatinée sous des tonnes de conventions. Et fais-toi belle et ne rôde pas devant les gens. Marre de mettre mon énergie à y répondre, le doigt sur la couture, là, juste comme il faut. J'en ai marre de ce carcan dans lequel je m'enferme, du mari adorable et charmeur, de la maison grande et accueillante, marre de mes peurs et de mes colères enterrées. J'en ai marre de ces pauvres gens, de ces fous, de ces pauvres, de ces incapables que je rencontre chaque matin. J'en ai marre qu'il faille penser, les soutenir, les contenir et faire semblant de les aider. J'en ai marre de ne pas pouvoir leur gueuler dessus, eux qui me disent des conneries à longueur de journée. Marre de penser qu'ils sont mes égaux, qu'ils ont des droits comme les autres, qu'ils ne sont pas responsables. J'en ai marre de ces idées d'égalité, de respect, d'empathie qui m'abrutissent. J'en ai marre de vouloir perdre 3 kilos à chaque nouvel an.
Bravo. C'est génial, bravo, merci. Est-ce qu'on a... Ça défile, c'est bien organisé derrière les micros. Je vous écoute.
Ouais, alors là, c'était un autre thème, c'était partir, je crois. Donc, c'est peut-être moins drôle, mais bon, c'est le voyage.
D'accord.
J'ai déserté Paris à 5h30 ce matin. Le jour se levait à peine, mais la température de l'air laissait augurer d'une journée à la chaleur harassante. J'ai gagné ma place côté fenêtre dans la voiture 33. À 7h matinale, nous n'étions en tout et pour tout que 5 voyageurs. C'est une lettre, en fait, hein, que j'adressais à un ami ou une amie, peu importe. Tu connais mon aversion pour les levées extrêmement matinaux, alors ne t'attends pas à ce que je te décrive de suite ces pauvres airs qui, comme moi, n'ont pas encore recouvré tout leur sens. Le train est parti à l'heure, à petite vitesse, pour traverser Paris et sa peu reluisante banlieue. J'ai toujours pensé que les concepteurs du tracé TGV se sont évertués à choisir les endroits les plus sordides de la région parisienne. C'est triste, c'est laid, et il m'est difficile de concevoir que derrière ces innombrables immeubles, ces vitres, se déroulent, s'écoulent des vies. Ces gens ne peuvent survivre qu'en abusant d'expédients, anxiolytiques, alcool, chichons. Je vais te laisser un instant, cette morne contemplation me désole. Le train file à sa vitesse de croisière, déjà les paysages de la Beauce se dessinent. Le soleil qui darde ses rayons sous cette immensité de champs de blé lui confère une beauté que les éoliennes viennent polluer. Ces gigantesques corps métalliques dont les pales immenses brassent les cieux d'une manière disgracieuse. L'axe central des pales m'évoque irrémédiablement la tête d'une chauve-souris, une petite tête avec un corps démesuré. Mon voisin a faim, il a sorti de son tupperware un croissant froid au jambon qu'il ingurgite en déglutissant bruyamment. Il parcourt en même temps un magazine de football où s'étalent des noms et des photos qui, pour moi qui honnis ce sport, n'évoquent rien. Inutile de manifester une quelconque civilité, je doute que nous trouvions quoi que ce soit à nous dire. 17h13, enfin la gare de Lido di Gesolo, Venise n'est plus qu'à quelques kilomètres. J'ai trouvé un bus qui se rend directement à la place Saint-Marc. Je n'aurais pas dû, vois-tu, aborder Venise de cette façon. C'est somme toute une ville comme les autres. Une ville qui a une banlieue industrielle, portuaire, d'une laideur comparable à tant d'autres. Comment veux-tu te projeter dans l'écrin tant vanté de cette ville avec un tel trajet en préambule ? Bien qu'il soit 18h30, la place Saint-Marc est bondée, surpeuplée. Il n'y a pas un centimètre carré de pavé qui ne soit pas constellé par les fientes des pigeons. Je déteste ces bestioles tout autant que cette foule bruyante et industrieuse qui s'évertue à immortaliser ces lieux soi-disant célestes. J'ai fui. Me voici donc à la recherche de ma pension dans le dédale de cette cité. Elle donne sur un canal, ma chambre est mansardée, petite, la chaleur y est suffocante, la literie douteuse. J'ai ouvert la fenêtre, mais les odeurs nauséabondes qui se dégagent du canal me font renoncer à abaisser la température intérieure. Cette nuit ne sera que moiteur, je vais sortir, quitter cette vénèle et tenter de trouver la fraîcheur et la compagnie des Vénitiens dans une trattoria. Demain, je quitterai ce cartoon pour Dubrovnik. Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route. Ça, c'est une chute à la Laetitia. Je plaide non coupable.
Une chute imposée.
Bravo, c'est très, très joli. Enfin, je trouve ça vraiment des beaux textes. Ça donne envie de venir écrire avec vous. C'est,
Super. Ah ouais.
Vraiment, c'est très chouette. Je vous propose pas un dernier texte, mais encore un texte. On fera une petite pause musicale ensuite. Et puis, on se retrouve après. Donc, je vous en prie, allez-y. On vous écoute.
Donc, c'est le dernier texte qu'on écrit cet après-midi. 15 jours que ce magasin est ouvert. Biotop. Non, mais quel nom. Et moi, 15 ans que je tiens ce commerce. les primeurs du jour. Ça, c'est un nom. Pas besoin d'un lexique pour comprendre ce que je vends. 15 ans, et avant moi, mon père, Désiré Émail, de père en fils. Rien n'a changé, sauf les produits frais du jour. Une boutique pimpante, tenue avec soin et rigueur. Bonjour madame, au revoir madame. Courtois, mais pas trop. Pas comme dans ces supermarchés, supercherie de politesse. Qui vous accueille? Qui vous tient la porte? Qui porte votre sac? Pas ces caissières amorphes qui ne pensent qu'à vider votre compte. Et vous avez la carte du magasin et les promos en tête de gondole? C'est moi qui me gondole. Que faut-il donc faire pour faire un bon repas? Des bons produits, pas ces choses exotiques. De la farine sans gluten, du jambon sans gras, du café sans caféine, du vin sans alcool. Et ces rayons qui n'en finissent pas. Fromage à 30%, 20%, 3%, 0%, qui dit mieux? Des boissons à purger un éléphant, jus de betterave, jus de radis. Et si moi j'aime les OGM et l'huile de palme? Ça les dérange, ces mangeuses d'herbe et de soja? Ah, elle est belle la France bio. Des gosses exsangues, nourris à la purée. Des bobos qui viennent chercher leur ration de 5 fruits et légumes. Et cette ambiance? J'y suis allée pour voir. Il faut bien évaluer la concurrence pour lutter. Ambiance gazouillie de pinsons près d'un ruisseau. Des kilomètres de graines à oiseaux. Des gens qui picorent. Voilà ce qu'on fabrique. Nourris par des vautours. Car où va cet argent, hein? Le double qu'ils paient. Des rapaces qui nourrissent la basse-cour. Et moi, pendant ce temps, je serre, je souris. Un peu jaune le sourire. Oui, Mme Michu, j'ai vu ce nouveau magasin. Oui, il faut que tout le monde vive. Oui, c'est spacieux. Oui, on peut se garer. Et j'en passe. Je hais le bio. Tout est bio du sol au plafond. La bouffe, la lessive, le savon. Même leur saleté est bio. Et l'argent, il est bio dans leur caisse. Un bien bio sourire quand on passe à la caisse. Après avoir dépensé de l'essence bien bio pour venir. Bonjour, messieurs, dames. Des fraises pour Noël? Bien sûr que j'en aurai. Vous n'en trouverez pas au biotope. Comptez sur moi.
Bravo.
Donc je vous ai sélectionné un petit morceau de musique que j'affectionne particulièrement, qui est dans le thème du rire. C'est un artiste qui s'appelle Oldelaf, qui fait beaucoup de chansons à la fois poétiques, à la fois humoristiques. Celle-ci s'appelle Le Testament. Bonne écoute sur La Rage.
Quand je ne serai plus là, quand j'aurai quitté l'ici-bas, pourras-tu poser sur ma tombe 2 ou 3 000 colombes juste pour moi? Pour pas qu'elles puissent rentrer chez elles, il faudra leur couper les ailes, c'est comme ça. Attends encore une seconde. 2 000 oiseaux, ça fait du monde. Vu le prix du mètre au cimetière, mêlé dans une grande cage en fer, tout en hauteur. Mais les colombes, quand c'est malade, comme les pigeons, c'est super crade, c'est une horreur. Bon, mais des fleurs. Ceci est mon testament. Tu verras qu'au fond, je ne pars pas vraiment. Ceci est mon testament. Je reste avec toi pour longtemps. Ceci est mon testament. Mon testament. Le jour où je serai parti, j'aurai une piole au paradis. Pourrais-je avoir pour mon cortège, en guise de dernier privilège, tous mes amis? Ils pourraient faire une chorale, à part Florent, qui chante trop mal, non, non, pas lui. Et dans cette longue marche funèbre, pour m'emmener vers les ténèbres, combien seront là au final? S'il y en a 3, c'est pas si mal, s'ils viennent vraiment. Si juste derrière le corbillard, t'es toute seule, ça va faire bizarre, ça craint. Attends, me rappelle Florent. Ceci est mon testament. Tu verras qu'au fond, je ne pars pas vraiment. Ceci est mon testament. Je reste avec toi pour longtemps. Un peu d'argent pour tes vieux jours, histoire que tu ne sois pas à court, trop endetté. Et pour multiplier cette somme, j'ai joué au poker, mais en somme, j'ai pas gagné. Tu dois du blé. Ceci est mon testament. Ceci est mon testament, je reste avec toi pour longtemps. Ceci est mon testament.
Radio Rage, en direct de l'accueil jeune de Vénier, toute la journée.
Et on est de retour sur la rage sur le 99.1 FM, peut-être. A priori, le direct a été relancé, donc vous devriez nous entendre dans quelques minutes. On est un peu en différé. On a eu un petit souci, donc vous arrivez au milieu d'une émission que j'ai qui est enregistrée. On est en train de lire des textes qui ont été écrits par des personnes qui ont assisté à un atelier d'écriture avec l'association Les Wagons. Et tout de suite, on va écouter un nouveau texte où on est à des questions. Non, Alexandra.
Là, on va écouter le texte de Serge.
Serge,
voilà,
ouais, c'est
donc,
ça.
Dans la continuité des productions que vous avez faites aujourd'hui au wagon avec Anne-Marie et Laetitia. Donc, on vous écoute, Serge.
Alors, ce n'est pas un texte d'aujourd'hui, c'est un texte d'un atelier précédent sur l'errance.
Sur l'errance, d'accord. Voilà. Okay.
C'est une lettre.
Allez-y, Serge. Voilà.
Passaïque, le 21 avril 1905. Ma chère maman. Corana Matko. Je suis enfin arrivé à New York et tu n'imagines pas comme ce fut long et difficile. Mais rassure-toi, je suis en bonne santé et j'ai bien retrouvé ma sœur Anna à Passaic. Quand je t'ai quitté à la gare de Maïdan, j'ai retenu mes larmes, mais toi, tu sanglotais. Je penserai chaque jour à cet instant. Je reviendrai te serrer dans mes bras et te couvrir de baisers au plus tôt. Le train m'a emmené à Oświęcim. Nous avons traversé longtemps des forêts de pins puis des champs de terre noire où rien n'a encore poussé. Avec d'autres Galiciens, des Russes et des Ukrainiens, nous avons été guidés vers une agence de voyage de la Norddeutsche Lloyd. J'ai acheté mon billet de bateau à leur bureau. Il y a pourtant ici d'autres compagnies de navigation. J'ai donc pris un autre train pour me rendre à Bremen. Nous avons voyagé à travers la Galicie puis la Prusse. Ça m'a semblé interminable, et les paysages m'ont paru si monotones. La plupart des voyageurs étaient comme moi des migrants pour l'Amérique. Certains partaient avec leurs enfants. Ça pleurait, ça criait. De partout jaillissaient des discussions sur le probable bel avenir dans le Nouveau Monde. Il y avait aussi ceux qui rouspétaient parce qu'ils avaient payé plus cher leurs billets que d'autres. Ce brouhaha permanent me saoulait. Et je ne te dis pas les odeurs. Celle des repas emmenés par les passagers, celle des passagers souvent sales et de leurs vêtements rarement lavés. J'ai pu dormir une nuit dans un petit hôtel de Bremen. Mais j'ai dû me lever tôt pour prendre le train qui nous a emmenés au bateau. Le port, Bremerhaven, est à 60 km de la ville. Sur le quai, il ne faisait pas très chaud. Le brouillard était encore épais et les bruits des docks me surprenaient. Le pire, c'était les sirènes des paquebots. Au lever du jour, c'était sinistre. J'ai voyagé dans la cale du bateau. Ils appellent ça steerage, l'entrepont. En fait, ce sont des grandes cabines communautaires, sans intimité, avec des lits à deux niveaux. J'ai reçu une couverture, un oreiller et un matelas. C'est compris dans le prix du voyage. Imagine, la vie en communauté pour dormir et manger, avec des enfants parfois turbulents et des gens de partout. Il règne une grande incompréhension. Il y a des fâcheries et des règlements de compte, même des histoires d'amour. Nous n'avons pas droit aux jolies décorations comme les secondes classes, et je ne te parle pas des cabines de première. Je les ai vues sur leur prospectus. Nous avons eu deux jours de gros grains. Beaucoup ont été malades. Ils avaient du mal à rejoindre les latrines et se vider avant d'y arriver. Je suis souvent allé sur le pont, malgré le mauvais temps, pour respirer l'air pur. Les vagues, très hautes, se brisaient sur la proue du prince des sirènes, en nous éclaboussant. Je me suis demandé parfois si nous n'allions pas à la catastrophe. La tempête s'est calmée dans la nuit avant notre arrivée à New York. J'ai préparé mes affaires et mes papiers. Le bateau a accosté à Hoboken en face de la ville. Une barge nous a transférés à Ellis Island. C'est une petite île dans la baie où se dressent des bâtiments rouges et blancs. Nous y avons passé différents contrôles pour les papiers, la santé et même un interrogatoire sur nos intentions. Certains des inspecteurs sont agréables, d'autres beaucoup moins. Le docteur regarde tes yeux sans les toucher et tes mains pour voir si tu as l'habitude de travailler. J'ai à peine vu New York et Liberty était dans la brume. Mais j'ai entendu tous les bruits. Les trains et le métro émettent un épouvantable vacarme métallique à te rendre sourd. Les chevaux attelés et leurs cochers, la foule affairée grouillante anime de bonne heure les rues de Manhattan. Maman, tout va bien. Anna m'attendait. Elle n'a pas changé. Elle a coupé ses tresses blondes, mais son sourire est toujours éclatant. Elle a maintenant deux enfants, un garçon de 2 ans, Stan, et une petite Maria qui va avoir 6 mois. Son mari Stéphane est gentil et travailleur. À Passaic, j'ai retrouvé la campagne un peu comme chez nous. Je commence demain à travailler dans une ferme du New Jersey, pas très loin d'ici. Tout me paraît immense, les champs, les forêts et les montagnes. Le fleuve aussi. Je suis content de vivre avec la nature. Tu sais, elle m'a toujours inspiré. Plus je me rapproche de la vraie nature, et plus je comprends que le monde est esprit. Ton fils qui pense à toi, Yacoub.
Voilà. Merci Serge. Du coup, vous avez écrit cette lettre lors d'un atelier sur l'errance.
Avec
Laetitia.
Avec Laetitia.
Au wagon.
Au wagon,
et
absolument.
Il y a combien de temps?
C'était quand l'errance?
L'année dernière.
Voilà, c'était l'année dernière.
Donc vous êtes un habitué des ateliers d'écriture du coup?
Ça fait 3 fois maintenant.
D'accord. Okay.
Pas vraiment une habitude, mais j'imagine ça peut le devenir.
Ouais.
Oui, oui, écrire, c'est bien, c'est se confronter à soi-même. Voilà.
Et vous serez sur l'atelier de la gourmandise en février?
Ah ben j'espère.
Ah, très bien. Et Karine, tout à l'heure, donc en off, je vous demandais si vous aviez l'habitude de participer aux ateliers d'écriture et vous me disiez que oui. Du coup.
En fait, oui, moi je fais des ateliers depuis très très longtemps. J'ai découvert l'écriture, j'étais adolescente. Donc j'ai la chance d'être éditée par une maison d'édition qui s'appelle Edi Livres, où j'ai écrit 2 récits et un recueil de haïku. Et donc Laetitia, j'ai découvert il y a 2 ans à Toxini. Et j'adore ses thèmes, j'adore la manière dont elle anime ses ateliers. Donc voilà, donc je continue.
Donc vous êtes une réelle habituée aux ateliers d'écriture.
Ah oui,
Laetitia.
Puis j'aime ça, oui.
D'accord, ok. Donc vous serez sur la gourmandise.
Ah oui, bien sûr.
Très bien. Et vous avez l'habitude de préparer vos ateliers avant d'arriver ou
non.
Vous allez comme ça?
Non, c'est la grande découverte. Voilà.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venue et de nous avoir fait partager votre écriture sur le rire. Anne-Marie, je vais clôturer avec
oui,
toi.
Oui, ma chère Alexandra.
Je vais clôturer avec toi pour te remercier déjà d'être venue ce soir.
Mais
après cette journée.
C'était un réel plaisir.
Donc, c'est un réel plaisir toujours de recevoir des invités pour nous parler des expériences et de ce qu'ils proposent dans leur asso, donc les wagons de Saint-Bran. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va se passer les prochaines semaines, fin 2017, début 2018, au wagon?
Eh bien, déjà le week-end prochain, nous participons au Téléthon, là, avec Saint-Bran, avec les randonneurs. On va organiser une rando comptée. Donc voilà, on vous propose un rendez-vous à 10h au wagon, avec une petite collation, peut-être qu'il fera froid, donc une petite boisson chaude. Et puis là, bon, il y aura quelques lectures de textes. On a choisi comme thème eh bien, l'hiver, les huîtres, par exemple, le foie gras, enfin les choses qui tournent autour de Noël. Et puis l'hiver, le sapin, enfin bon. Donc c'est familial, vous pouvez venir avec les enfants. Et le rendez-vous est à 10h samedi. Voilà, une petite rando de 6 km avec des pauses, justement, lecture et retour au wagon pour... une nouvelle dégustation de gâteaux maison. Voilà. Et puis le lendemain, nous vous proposons, c'est gratuit, le dimanche à 17h au wagon, c'est une projection de court-métrage. Donc là aussi, on sélectionne des court-métrages. Et en fait, c'est dans l'idée du jour le plus court. Hein, donc ce n'est pas tout à fait le 10 décembre, mais ça approche. Et donc là, il y aura une sélection de court-métrages qui vous seront proposés. Et puis en 2018, on attaquera avec le 10 janvier, c'est un mercredi, à 16h, puisque c'est un spectacle pour le jeune public, le premier Noël de Léon. C'est à partir de 2 ans, voilà. Et ce sera un mercredi après-midi, voilà. Et puis le 19 janvier, nous aurons un concert de bluegrass et musique folk de Mélograsse au profit de l'Alliance du Cœur. Voilà. Et puis après, on verra. Voilà. Eh bien, écoutez, au revoir.
Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci d'avoir partagé vos textes. C'était un super beau moment. Merci à tous. Et rentrez bien dans le froid, etc. On arrive à la toute fin de ces 24 heures. C'est la fin. On a reçu tous nos invités. On a passé 24 très belles heures autour des micros, derrière la table. Moi, j'ai plein d'émissions à écouter parce qu'il y a des émissions que... Ben voilà, cette nuit, j'étais pas là. Il y a tout le matin, je dormais, donc j'ai loupé tout ça. On retrouve Benoît qui était là cette nuit de 1h à 7h.
C'est ça, après 3-4 heures de sommeil, me revoilà au micro.
Ouais, tu as réussi à dormir un peu en rentrant chez toi. Vincent m'a dit que vous aviez une très belle mine ce matin avec Clément, il a trouvé ça...
Mais on est jeune encore.
Donc tout s'est bien passé pour toi. Alors j'ai de nouveau autour de la table tous les animateurs, enfin pas tous les animateurs, mais les animateurs, certains des animateurs qui
les
étaient
meilleurs.
Là.
Les meilleurs.
C'est ça. Voilà. C'est les ça. Meilleurs pour la fin, comme on dit.
Au moins ça.
Donc Vincent qui est revenu, qui était parti rendre...
À Saint-Branc.
Qui était parti à Saint-Branc. Rendre
Akimo à ses parents.
Rendre Akimo à ses parents. Akimo qui était là de son plein gré, on le précise. Hein,
qui a tenu l'antenne une bonne partie de l'après-midi. Hein, quand
ouais,
même.
Il a...
oui, ouais, il était là souvent.
Plein de choses.
Ouais, derrière les micros,
on a été observé.
Ouais, c'est ça. Écoutez.
On était écoutés. voilà, est-ce que vous avez des impressions sur ces 24 heures, des petits mots avant courant de l'antenne dans quelques minutes?
C'est moi qui commence. La première chose qui me vient à l'idée, là, c'est que je suis fatigué un petit peu, là, je commence à accuser le coup,
ouais.
Je pense. J'ai un petit coup de barre, mais non, agréablement surpris par le côté technique, parce que du coup, je m'attendais à ce qu'on ait plus de bugs que ça, et au final, tout a bien fonctionné, tout week-end, donc c'était super, des invités, intéressant, agréable, qu'on apprécie aussi, je pense, venir derrière le micro, donc c'était bien l'objectif. Donc moi, je suis vraiment content. Merci.
On dit au revoir à tous les participants des ateliers des wagons. Merci d'être passé, rentrez bien.
Et puis de la vie dans l'accueil jeune, donc ça c'était cool aussi, du passage un petit peu, des jeunes qui sont venus, des jeunes qui ont participé aussi au micro. Des invités.
Ouais, cet après-midi, on avait. Enfin, toute la journée, en fait, il y en a qui étaient là depuis 8h ce matin.
Ça. Avec toute la journée, on a eu du monde.
Qui étaient des jeunes qui étaient là pour
et
tenir
la nuit.
Et la nuit
également.
Sur
les coups de 2h30 du matin, une dizaine de jeunes est passée, tout à fait.
Ouais, bah tu vois, cet après-midi, on a eu
super,
du monde aussi, enfin, toute la journée. Là. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est cool tout ça avec très peu de préparation au final. Hein, ça fait. Maëva, on va attendre, elle va finir, elle va faire son bilan en dernière. Mais en un mois, grosso modo, on a commencé à avoir l'idée, on a commencé à réfléchir à ça. Et du coup, voilà, pour en arriver là aujourd'hui. Donc, non, c'est de la bonne fatigue. Moi, je suis assez content, franchement.
On est plutôt content.
Ça va être à moi ?
C'est ça.
Tes impressions.
Fatigué un peu, mais pas trop, ça va encore. En plus, pour ceux qui ont envie de poursuivre, il y a quand même un beau concert ce soir à la salle des fêtes de Vénier, donc c'est l'occasion d'aller y assister. On souligne que c'est organisé par une association locale vindinienne, initialement des tout petits, hein, constituée en junior asso, puis ils ont grandi, puis maintenant ils sont en loi 1901, donc chapeau à eux. Je vais revenir sur le projet radio quand même. Moi, je voulais juste souligner une belle mobilisation et des animateurs, mais de tous les intervenants qui ont pu venir aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est quand même 24 heures. Ça a été plus d'un invité à l'heure. Enfin,
on avait plus d'un invité à l'heure. Ouais.
C'est
ouais.
Considérable. Pas de défaillance technique.
Par le petit bug là en fin de journée.
La fin, on a perdu un peu.
Ouais, enfin ça va. Ouais. Ça va.
Franchement, c'est pas méchant.
Je vais parler de la nuit, une belle nuit. Franchement, un beau DJ set de Manu. Franchement, qu'on pourra retrouver en podcast sur le site de La Rage, comme l'intégralité des émissions que vous avez pu toutes écouter pendant ces 24 heures.
Une fois que Maëva a réussi à se dépatouiller.
Une fois que j'aurais découpé
voilà,
un peu
après,
tout ça.
Moi, je suis plutôt ravi de cet événement. Je me dis que si on a fait 24, on peut faire encore plus.
48 heures.
Toujours plus. Pour la fermeture d'antenne, on vous réserve très peu de sommeil, beaucoup de café.
Et... un grand merci encore à toi, Maëva, pour la coordination de cette journée-là, parce que mine de rien, tu n'es que volontaire en service civique. Voilà. Donc bravo.
Parce que ça a été un sacré boulot, ouais.
Ben, merci à vous tous. Vas-y, Alexandra, moi je ferai mon petit mot à la fin. Ouais.
Eh bien, moi je suis ravie d'avoir participé à ces 24 heures, donc mon deuxième direct. Parce que l'année dernière, j'avais fait mon premier direct avec Pierrick sur une manifestation de Saint-Bran. Et oui, le championnat d'Ultimate, c'était sympa, c'était dehors, il faisait beau. Et là, pour moi, c'était très sympa aussi de prendre la continuité de mes collègues comme ça, sans difficulté. L'aide précieuse de Maëva et Vincent pour m'accompagner, parce que non, je ne suis pas très très à l'aise derrière le micro, mais je garde le sourire et je suis ravie d'avoir rencontré autant de personnes et d'associations qui m'ont fait découvrir plein de choses et avec qui l'échange était très intéressant. Donc voilà. Merci pour cette belle expérience et à l'année prochaine pour les 48 heures de La Rage ou 72 heures si on est trop gourmand.
Oh bah, puis attends, dès janvier, les auditeurs vont nous retrouver sur la FM de toute façon, de janvier jusqu'à au moins fin juillet sur le 99.1. On sera présent.
Et moi, je repense à un petit truc aussi. Ton objectif, Maëva, c'était de faire connaître aussi la radio, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui veuillent faire de la radio. Et même si, en effet, tous les invités ne reviendront pas forcément te voir au studio à Montbazon, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont bien entendu, en tout cas, la faisabilité et certainement avec qui tu vas avoir des contacts. Je pense dans pas très très longtemps, donc ça c'est aussi un gros point positif.
Oui, et puis pour moi c'était l'occasion aussi d'avoir un premier contact avec pas mal d'associations, d'acteurs du territoire, d'acteurs locaux qui font plein de choses. Enfin, on a eu pas mal d'associations, on a eu des artisans, on a eu des commerçants,
des élus,
donc pour moi c'était aussi bien pour mettre en branle un peu tout le projet radio et voir où ça va me mener dès janvier, pouvoir mettre en place des choses la courant décembre pour entretenir les contacts que j'ai récupérés pendant ces 24 heures. Et donc je suis très contente de comment tout ça s'est déroulé. J'avais pas mal d'appréhension sur la technique, mais finalement tout s'est très bien passé. Je suis repartie très heureuse chez moi hier soir. J'ai rêvé de la radio. J'étais avec vous toute la nuit. Hein. J'ai rêvé de la radio cette nuit. Je me suis réveillée en me disant non, là c'est la fin du créneau nuit, donc on change. On est en créneau matin, on se rendort créneau matin.
Ça veut dire que t'as pas pensé à nous ce matin, quoi.
J'ai pensé à vous.
Ah, j'ai eu peur.
Avec un peu de retard, j'avoue. Je pense que. Mais c'était très très chouette. Je suis très contente des sourires que j'ai vus autour de moi. Pendant ces 24 heures, de toute la mobilisation de l'équipe jeunesse, de toutes les personnes qui sont passées là pour se relayer, pour tenir les 24 heures. Parce que moi, je ne suis pas Jérémy, j'aurais pas pu les faire toute seule ou à deux. Donc merci, un grand, grand merci à vous d'avoir soutenu le projet de toute votre énergie et de votre large présence. Et puis, je réfléchis au prochain temps fort, une autre enveloppe pour un prochain temps fort qui permettra aussi de rencontrer des gens. Avec cette fois-ci, pour moi, l'objectif d'avoir un peu plus de personnes extérieures qui viennent nous voir, parce que là, on a eu pas mal de jeunes, mais peut-être qu'on n'était pas assez visible pour les habitants de la communauté C'est de sûr. Communes. Donc voilà ce que j'en retiens, très chouette moment, et pour la prochaine fois, quelque chose où on est plus visible, peut-être dehors, peut-être faire un 24 heures sur une place publique ou un autre format, et ou on passe d'un bar à l'autre. Je sais pas, j'y réfléchis et puis
s'il y a des auditeurs qui ont des idées,
s'il y a des auditeurs qui ont des idées, n'hésitez pas. Vous pouvez donc me contacter sur contact.larage@gmail.com. J'ai un doute tout à coup, c'est bien ça. Donc contact.larage@gmail.com pour toute suggestion d'émission, pour proposer de la musique. On diffuse de la musique de la région Centre, donc si vous produisez de la musique, n'hésitez pas à nous en faire passer aussi. Vous pourrez retrouver donc toutes les émissions sur www.la-rage.fr. Il faut juste que je découpe les grandes bandes Audacity de 5 heures, 3 heures en petites émissions, mais sinon ça sera disponible sur notre site. Et puis là, dans très peu de temps, on va plier rapidement le matériel et on déménage du côté de
la salle des fêtes
de Vénier, où on reprend un direct. On ne sera pas là en 24 heures, on sera là 2-3 heures suivant notre état de fatigue, parce que j'accuse un peu le coup aussi. Donc on sera là pour le concert organisé par les Douites, avec encore les interviews des artistes. Il y a des stands qui seront là aussi. Alors, j'ai pas tout retenu, j'ai pas mes fiches à côté de moi. Il y a le planning familial notamment, il y a une entreprise de jeunes qui fait des t-shirts. Je crois, je vois Benoît qui acquiesce. Peut-être que tu as les noms, je les ai plus en tête.
Ah non, je commence à vieillir, alors du coup, des fois, j'oublie des choses. Mais ouais, tout à fait, il y a le planning. Effectivement, il y a une jeune entreprise où ils sont lancés dans la création de t-shirts. Et puis, normalement, il doit y avoir des expos de graphes aussi, je crois.
Et des expos de graphes, oui, c'est ça.
En parallèle des concerts de rap.
Voilà, et des concerts de rap. Donc, quelques interviews, de la retransmission en direct et puis...
Le mieux qu'on peut vous conseiller pour savoir qui sera là, c'est de rester sur le 99.1 FM ou sur le www.la-rage.fr, et puis vous en saurez plus d'ici une bonne heure maintenant.
Une bonne heure, ouais, tout à fait, le temps qu'on s'installe de l'autre côté. Et entre-temps, il y a une émission de la Fracamag qui sera disponible sur la Rage. Donc on vous laisse avec de la musique proposée par la Fracamag et on vous retrouve juste après sur la Rage.
Allez, à très bientôt.
Merci à tous.
Merci.
Pour ces 24 heures.
Merci à nous.
À très bientôt.
Merci.
Et un petit jingle pour terminer quand même, pour le plaisir.
Il est bien ce jingle.
Ah Radio Rage. 24h. En direct de l'accueil jeune de Vénier, toute la journée. Été janvier sur le 99.fm.
Woos Rock numéro 3, nous voilà repartis dans notre voyage à travers le rock'n'roll et ses légendes. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui fait du bruit, vraiment, qui est un son, mais vraiment canon. Et c'est le fameux Motorhead, le groupe de Lemmy Kilmister, qui est décédé récemment, mais qui est vraiment, comme on a pu s'en apercevoir, une légende du rock, puisque le nombre de personnes qui se sont dit descendants ou inspirés par Lenny et sa musique... sont impressionnants. Donc, Motorhead, on peut classer ça dans du hard rock, mais vraiment trash pour certains. Mais Lemmy Kilmister le disait lui-même, non, moi je suis rock'n'roll. Voilà, c'était clair. Pour lui, il aimait pas être mis dans une case. Pour lui, il faisait du rock'n'roll. Étant donné que c'était vraiment un musicien hors pair, puisqu'il a commencé avec le groupe Hawking. Et il a été viré à l'époque pour les affaires de drogue, parce que Lenny, c'était un grand spécialiste des années 70, sex, drogue and rock and roll. Avec le temps, il s'est un petit peu calmé, puisqu'il s'est réfugié surtout dans la consommation du whisky. Par contre, au niveau musicien, c'était un musicien hors pair. Entre autres, il a appris la basse à un certain... je crois que c'est un petit bassiste des Sex Pistols. Je ne sais pas si tu vois qui je veux dire.
Je ne connais pas son nom, mais je vois très bien. Oui.
Tu vois là, un petit bassiste des Pistols. Vous l'aurez reconnu. Mais bon, c'est vraiment une légende. Ce gars-là, il a vraiment appris à jouer à tout un tas de monde. Pareil, tous les groupes ont voulu faire un moment un bœuf avec lui. Parce que... Sa voix très reconnaissable entre tous. Un jeu de basse aussi, minimaliste peut-être, mais alors un son J'ai eu l'occasion de les voir aussi. Dans notre région, il ne faut pas croire que la Touraine, c'est une région paumée au niveau rock'n'roll. Et ils sont passés à jouer les tours. Et c'était
incroyable.
C'était incroyable. C'était dans un gymnase en plus. Alors, ouais. Quand vous avez le son de Motorhead, comme tu dis si bien, Valentin, oula, en effet, on s'est aperçu que leur légende du groupe le plus bruyant, comme les Who, c'était pas une légende, parce que la soirée, on l'a fini, on avait l'impression d'avoir du coton dans les oreilles, donc c'est un son très puissant. Un jeu de scène, pareil, ça joue vite. On parlait des Ramones dans un épisode précédent. C'est pareil, le son des Ramones, de Motorhead, c'est vraiment puissant et rapide. Alors le groupe, pareil, comme tous ces groupes-là, a connu une vie plus ou moins agitée. Le fameux leader, c'est bien sûr Jan Lemmy Kilmister. Mais on a eu de nombreux batteurs et bassistes et guitaristes plutôt qui se pas bassistes parce que Lenny a toujours été là, mais des guitaristes qui ont succédé. Le plus fameux d'entre eux au niveau batteur, c'est Phil Animal Taylor, qui était c'est vraiment Animal, c'est par rapport au batteur du Muppets. Pour ceux qui connaissent un petit peu le fameux Animal, parce que c'est vraiment ça, c'était une pile électrique à la batterie. Il tapait, et souvent même, il jouait dans un état second au niveau alcool, ce qui lui a valu une fois de tomber de je sais pas d'où, et il a joué pendant je sais pas combien de temps avec une Minerve, parce qu'il s'était à moitié cassé une vertèbre au cou, mais certains seraient arrêtés. Non, lui, il continuait à jouer. Derrière, il y a toujours aussi Wurzel Fast Eddie Clark à la guitare, qui a été aussi une des légendes de ce groupe. Brian Robertson, Peter Gill, Larry Willis, Luca Fox. Mais bon, les plus mythiques sont tous morts. Bah oui, c'était bien sûr ceux que j'ai cités, c'est-à-dire Lemmy Kilmister, Phil Animal Taylor et Wurzel, qui étaient vraiment, pour moi, l'âme de Motorhead. Motorhead a aussi participé à pas mal de compiles et joué dans tous les plus grands festivals à travers le monde. Bon, je parlais de la France, mais nous, on n'est qu'une petite partie de l'univers de Motorhead, puisque il y a des milliers de fans à travers le monde qui suivent encore Motorhead après sa mort, avec le fameux emblème qu'ils ont. Donc c'est une espèce de croix de fer qui rappelle un peu la Première Guerre mondiale. Et parce que il faut dire que notre ami Kilmister est un fan de tout ce qui est objet militaire. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être un petit peu embêté parce qu'il y avait des objets un petit peu nazis qui ornaient parfois ses concerts ou des choses comme ça, ou sur les disques, on avait l'impression. Et en fait, lui se défendait en disant que non, il dit c'est le côté militaire qui m'intéresse. Et il l'a prouvé d'ailleurs dans pas mal de ses chansons où c'était un antifasciste notoire. Donc voilà, comme quoi une réputation, ça peut tenir à peu de choses. Ce que je vous propose, c'est de découvrir Motorhead avec le fameux Ace of Spades. Après bien s'être bien débouché les oreilles, je pense, retour à la vie de Motorhead, un des groupes mythiques du hard rock. Eh bien, comme tous les groupes, ils ont tâté un petit peu à la musique, mais aussi au cinéma. On peut notamment les voir faire la bande originale et aussi être en partie dans le film, un film qui s'appelle Eat the Rich. Donc, pareil, à voir absolument. De nombreuses vidéos sur la vie de Lemmy et du Motorhead en général, qu'on peut retrouver facilement. Je pense particulièrement à un documentaire sur Arte qui était excellent, où il y a de nombreux témoignages de gens qui l'ont connu, aussi bien des musiciens qui ont joué avec lui. On voit son fils qui a joué à un moment aussi avec Motorhead. Donc ça a été à un moment une affaire familiale, on peut dire, puisque on voit un grand respect filial. On s'imagine pas que cette légende du rock peut avoir un grand amour pour son fils. Et on le voit très bien dans ce documentaire que je vous engage à regarder parce qu'on découvre vraiment qui était Lemmy beaucoup mieux. Il a aussi participé à des œuvres caritatives de temps en temps. Comme quoi, et bien sûr, il y a toute cette légende qui fait que bah, les bikers adorent ce groupe Motorhead, comme je disais tout à l'heure, avec aussi tous ces insignes, tout ce décorum, puisque c'est, on voit ce qui est assez marrant, c'est de le voir en fait dans la rue quand il se trimbalait du côté de Los Angeles, il est avec sa paire de Santiago, un fan des Santiago, et avec son Stetson. Chapeau de cow-boy américain, donc c'est loin de l'image qu'on se fait. Bon, par contre, aussi reconnaissable, sa moustache, sa façon de jouer de la basse, avec la basse très haute, et sa voix, que vous avez pu voir dans Ace of Spades, pas très mélodieuse, mais par contre, bah voilà, ça reste une légende de la basse. Bien, je vous propose justement, en deuxième morceau, d'écouter It's a Reach, le fameux morceau du film du même nom. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez aimé, bon, bah, bien sûr, on va vous dire d'écouter ZZ Top, parce que c'est une des influences des deux. Les deux adoraient le blues. Hein, Motorhead a fait justement des compiles. Lui, il adorait le blues. Donc, ZZ Top, c'est pareil, c'est du gros son. Mais derrière, il y a quand même un amour du blues. Donc, c'est de toute façon, la plupart des musiciens de hard rock. On prend AC/DC par exemple, bah, ils aiment le blues. Alors un groupe qui a joué avec eux, un groupe féminin qui s'appelle Girls School, qui vous comprendrez pourquoi ils s'entendaient très bien, parce que bon, faut dire que Lemmy était aussi un grand séducteur, et ainsi que Phil Animal Taylor. Donc il y a plein de groupes. Moi j'ai un souvenir de aussi justement à ce niveau-là, si vous voulez trouver. Mais ça sera assez dur à trouver. Ça s'appelle Cycle Sludge from Hell, qui avait fait leur première partie à jouer. Alors pareil, musique d'enfer avec eux. Donc voilà, vous avez de quoi faire dans tous ces groupes. En plus, après, bah, Metallica, tous les groupes qu'ils ont influencés, plus ou moins. Et d'ailleurs, qu'on peut voir dans le fameux documentaire que je vous parlais tout à l'heure, on peut voir les gars de Metallica, avec qui il a fait souvent des boeufs, parler de Lemmy. Eh bien, maintenant, Motorhead, c'est terminé. À bientôt pour un nouveau Who's Rock.
L'instant bien-être en Touraine avec Céline David. Une émission pour apprendre à s'écouter, pour découvrir des techniques de bien-être et des praticiens de la région.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre nouvelle émission autour du bien-être en Touraine. Bonjour Maëva, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien, et toi ?
Eh bien écoute, très très bien.
Alors aujourd'hui on parle d'hypnose.
Oui absolument, aujourd'hui nous nous intéressons à l'hypnose, tout un programme. Alors pour toi Maëva, qu'est-ce que ça t'évoque l'hypnose ?
L'hypnose, ça m'évoque un ami qui faisait ça en colo pour nous faire découvrir un peu de la magie en même temps que de l'hypnose. Ça m'évoque arrêter de fumer et gérer le fait d'avoir peur des araignées, pour moi personnellement.
Par ah, exemple. Pas mal. Eh bien, écoute, oui, on va aborder tout ça en détail justement. Effectivement, pour certains, l'hypnose peut faire penser au spectacle, hein, notamment avec Mesmer, le plus connu, hein, qu'on appelle aussi le fascinateur. Spectacle d'ailleurs où on peut faire presque n'importe quoi à des personnes volontaires et réceptives, et c'est aussi un domaine qui peut impressionner. Aujourd'hui nous allons aborder l'hypnose liée à des fins thérapeutiques, on l'appelle l'hypnothérapie. Donc elle est pratiquée par un hypnothérapeute et plus largement par des psychothérapeutes qui pratiquent l'hypnose.
Et d'où vient l'hypnose alors, ses origines ?
Alors l'hypnose a débuté en France au XVIIIe siècle. Mais elle existait déjà bien avant. On a retrouvé des tablettes de Sumériens qui remontent à moins de 4000 ans. Et les Grecs et les Égyptiens ont aussi pratiqué l'hypnose, que l'on appelait à l'époque transe hypnotique ou médecine par les songes.
D'accord.
Et c'est un certain Franz Anton Mesmer,
Mesmer, de nouveau là,
qui était médecin viennois venu à Paris en 1778, qui a développé des théories sur le magnétisme, proche de l'hypnose aujourd'hui. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, hypnose et magnétisme étaient des synonymes.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui. Ensuite, en 1842, la pratique de l'hypnose a été rejetée par l'Académie des sciences, ce qui n'a pas empêché certains nombres de médecins de l'utiliser, notamment en milieu hospitalier comme anesthésiant.
D'accord, ce qui est encore pratiqué aujourd'hui.
Exactement, exactement. Il y a eu ensuite en France un retour en force dans les années 1880, notamment avec un neurologue bien connu, Jean-Martin Charcot, qui a décrit l'état hypnotique comme étant un état hystérique et pathologique. Bon, à l'époque, c'était vu de cette manière.
Donc, ce n'était pas un retour très glorieux dans les années 80.
Voilà. On va avancer un petit peu plus tard, en 89, avec le premier congrès international de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique. Mais au début du 20e, les recherches sur l'hypnose ont décliné. Ce n'était plus à la mode, tout simplement. Et c'est revenu pendant la guerre de 39-45. L'hypnose est réutilisée pour traiter les traumas psychologiques des soldats.
D'accord, ok, je ne vais pas du tout.
Voilà, donc dans les années ensuite 1960, donc un grand tournant pour l'hypnose avec le psychiatre américain Erickson, et qui a prouvé que pratiquement tout le monde pouvait être hypnotisable. Donc c'est pour lui simplement une question de langage. Comme Erickson était un très très grand conteur, il a développé des techniques de communication personnalisées pour chacun de ses patients. Et donc, pour Erickson, on ne donne plus d'ordre, on ne parle plus du tout du pourquoi on a tel ou tel problème, mais on va se focaliser simplement sur comment le résoudre.
D'accord. Et donc, justement, comment un hypnothérapeute va résoudre un problème ?
Et alors, il va induire des changements durables pour le patient, des changements qui auront été définis en début de thérapie par le patient lui-même. Donc, il faut savoir qu'une thérapie se fait à deux. Un hypnothérapeute ne peut rien faire sans la participation active du patient.
Oui.
Pour reprendre une phrase d'Erickson, il précise bien, sans la coopération complète du patient, les résultats thérapeutiques peuvent être retardés, déformés, limités ou même empêchés.
Donc, un vrai travail d'équipe.
Exactement. Le thérapeute est un peu comme un entraîneur sportif. Il va faire des exercices pour développer les ressources du patient, pour supprimer des blocages, pour dépasser ses limites. Il va donner des conseils, il va guider. Mais en fin de compte, c'est le patient qui agit. Et tout le mérite du résultat va revenir au patient. Pour faire une comparaison, c'est toujours le sportif qui reçoit les médailles et ce n'est pas l'entraîneur.
En effet. Tout à fait. Donc on va faire tout de suite une petite pause musicale. On va écouter Natacha Atlas et mon ami La Rose.
On est bien peu de choses et mon ami La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Peu de choses qui mon ami n'a.
Et on est de retour sur la rage avec Céline David qui nous présente aujourd'hui l'hypnothérapie. Donc on s'était arrêté sur le travail d'équipe. Dans quel cas en fait on peut avoir recours à l'hypnothérapie ?
Alors on peut l'utiliser dans le traitement de troubles psychologiques, mais aussi dans le traitement de douleurs physiques. On sait maintenant que le corps et l'esprit sont liés et chacun des deux va influer sur l'autre. Mmh. Donc quand le corps va mal, l'esprit va mal. Et quand l'esprit souffre, le corps le fait savoir aussi.
D'accord. Donc on peut, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. On peut aussi consulter un hypnothérapeute pour...
pour une douleur.
Douleur physique.
D'accord. Absolument. Okay. Oui, tout à fait. En complément, bien sûr, d'un check-up médical. Donc avant, il faut vérifier comment ça se passe au niveau physique. Mais mm-hmm. l'hypnose va agir sur des cas de douleur, comme par exemple sur des migraines aussi, des insomnies, de l'anxiété, la dépression... également des troubles du comportement,
ouais.
Ce qui peut être de la boulimie, de l'anorexie, l'alcoolisme, etc. Pour les anesthésies, hein, on l'a vu tout à l'heure, ouais. Et également la diminution du stress lié à l'opération, c'est très important. Et puis tout ce qui est stress, ça peut être préparation aux examens et concours ou pour améliorer des performances, par exemple, de sportifs.
D'accord. Et pour la confiance en soi, est-ce qu'on peut passer par l'hypnose aussi ?
Bien sûr, le manque de confiance en soi relève d'un blocage qui se caractérise par des pensées négatives, hein, souvent de dévalorisation, l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc ces pensées vont rendre malheureux, stressés et vont provoquer de l'anxiété. Donc tous ces sujets peuvent être traités en hypnose.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as déjà fait une séance ? Comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ?
Alors, comment se passe une séance ? Rien n'est jamais figé. Hein. Ça dépend vraiment de la séance. Moi, j'en ai fait il y a très longtemps. Mm-hmm. Donc, mais je vais vous expliquer comment se déroule une séance de manière globale. Donc, les séances sont vraiment différentes d'une fois sur l'autre. Le thérapeute va s'adapter aux circonstances et aux besoins du patient. Et généralement, une séance comporte différentes phases.
Ouais.
En hypnose. Donc, on a d'abord la prise de contact, hein, très important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un bon contact, une confiance mutuelle. Mm-hmm. Tout le travail thérapeutique est une collaboration entre le patient et le thérapeute, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, l'hypnothérapeute va poser des questions sur les objectifs du patient, sur son passé, pour établir aussi des causes ou les déclencheurs qui ont pu entraîner un mal-être.
Ouais.
Et il va aussi expliquer comment fonctionne l'hypnose rapidement, hein, son processus, toujours pour la mise en confiance et pour savoir comment se passe la séance.
Donc le patient sait ce qui va se passer. Quoi.
Exactement, il n'arrive pas dans l'inconnu avec la peur d'être hypnotisé, on va dire. Donc une fois que ce contact est bien établi, la séance pourra commencer. Le patient va être guidé vers un état de profonde détente, mais il ne sera pas endormi. Mm-hmm. Il sera toujours conscient de ce qui se passe. Une fois installé dans cet état de profonde détente, l'hypnothérapeute va communiquer avec l'inconscient du patient en utilisant des questions et des suggestions pour travailler, on va dire, sur les croyances limitantes.
C'est-à-dire ?
Par exemple, si c'est un travail sur le manque de confiance en soi, mm-hmm. donc on peut induire que cette personne a des valeurs, c'est quelqu'un de qui a des qualités et qui pour la mettre en avant en fait.
D'accord. Ok.
On pourra en poser des questions plus précisément à notre invité justement Soisy qui sera avec nous tout à l'heure. Donc ce travail peut durer de 15 minutes à une heure environ. Mm-hmm. Et en état d'hypnose, c'est vrai que l'appréciation du temps, elle est très subjective. Hein.
On ne se rend pas compte du temps qui passe.
Pas du tout.
D'accord.
Ensuite, on a la phase que l'on appelle la sortie de transe, hein, qui dure quelques minutes. C'est une phase simplement où le patient revient à l'état de veille ordinaire, mm-hmm. un petit peu comme quand on se réveille après une bonne sieste.
Oui, quand on se réveille, oui, c'est ça.
Voilà. Et après la séance, le conseil, c'est de laisser ce travail, son inconscient intégrer le travail et retourner à ses occupations habituelles. Ne pas réfléchir, en fait, à ce qui s'est passé, mais laisser
D'accord.
faire les choses.
Accepter et laisser courir. Ok. Comment est-ce qu'on devient hypnothérapeute ?
Alors, pour être hypnothérapeute, il faut absolument avoir des connaissances approfondies en psychologie, mm-hmm. en pensée positive, en développement personnel et en psychothérapie. Un bon spécialiste de l'hypnothérapie doit savoir développer aussi une relation de confiance, évidemment, avec ses patients. Et il doit se mettre à leur écoute. Et il doit aussi savoir être discret parce qu'il est tenu par le secret professionnel, bien sûr.
Oui, par le secret médical. Et du coup, où est-ce qu'intervient un hypnothérapeute ? Chez lui, un cabinet
Oui, il y a différents endroits où on peut trouver un hypnothérapeute, effectivement. La plupart se trouvent dans leur cabinet privé. Hein, on peut les trouver dans des annuaires classiques ou spécialisés. L'hypnothérapeute va intervenir aussi dans des centres de soins, des centres médicaux pour soulager les douleurs. Et certains hypnothérapeutes proposent leurs services à domicile ou dans les maternités ou dans des maisons de retraite.
D'accord.
Voilà. Il peut proposer ses services à toute personne qui souhaite atteindre des objectifs fixés. Ça peut être aussi dans le milieu des affaires.
Ah oui, ok. D'accord. Eh bien, tout de suite, je vous propose une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour l'interview avec notre invité. À tout de suite.
coming down all over me. I'm begging you, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down.
Et vous êtes de retour sur la rage avec Céline David et son émission Bien-être. Aujourd'hui, on parle d'hypnose et on a une invitée spéciale, une hypnothérapeute. Céline, je te laisse la présenter.
Eh bien, nous accueillons Soizig Cariou, hypnothérapeute en Touraine. Bonjour Soizig et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Céline, bonjour Maëva.
Bonjour Soizig.
Alors l'hypnose, pour toi Soizig, c'est une grande histoire. Est-ce que tu peux nous évoquer la première fois où tu as vécu une séance d'hypnose ?
Alors, la première fois, c'était lors d'une formation de psychothérapie que je suivais. Et il y a eu ce pôle de découverte de l'hypnose qui était vraiment un peu tabou à l'époque. C'était dans les années 2000, un peu avant 2000. Mm-hmm. Et ça a été une révélation pour moi à partir du moment où j'étais dans une démarche plutôt très intellectuelle et très cérébrale. Et tout à coup, ça a été la grande détente intérieure et ça a été l'ouverture du cerveau droit. Et avec tout l'espace de créativité, de bien-être, et là, ça a vraiment fait écho à ce que j'attendais, je pense.
Ça a été le déclic.
Le déclic, absolument.
D'accord. Donc ce déclic qui t'a amené dans ton parcours à te former et devenir une spécialiste.
Oui. Donc, à travers mon cursus de thérapeute, il me manquait en fait cette dimension d'ouverture et de ressources immenses que chaque humain a en soi, mais il faut juste savoir ouvrir les portes.
Mmh. Ce que l'hypnose a permis, du coup.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Ça m'a permis d'accéder à un grand espace de liberté intérieure et d'offrir ça aux patients. Et là, ça a été magique.
Alors, si on rentre dans la fréquence des séances, qu'est-ce que tu proposes, par exemple ? J'imagine que c'est différent pour chaque cas.
Oui, alors tout dépend de l'état d'urgence de la personne, de l'état émotionnel, de l'état de stress. Et ça peut être une fois par semaine au départ. Et on espace à 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On détermine ça ensemble, en général.
Avec le patient.
Avec le patient, bien sûr.
Et alors, comment on peut déterminer que le travail est terminé en hypnose ?
Alors, le travail est terminé quand on le sent mutuellement, quand on est d'accord, et que la personne a acquis suffisamment de calme, de recul émotionnel, de ressources également, pour pouvoir bien gérer son quotidien.
Donc toujours en travail d'équipe.
Oui, toujours.
Justement, est-ce que tu peux nous donner différents cas pour lesquels tu vas recevoir des patients ?
Donc je reçois pas mal de gens qui sont en burn-out.
Mm-hmm. La maladie du moment.
Ouais. La maladie du moment. Et donc des gens qui ont perdu tous leurs repères, qui n'arrivent même plus trop à penser. Qui sont épuisés, donc je les accompagne vraiment pour recharger les batteries, retrouver de la ressource intérieure. Et là, il faut un petit peu de temps pour se reconstruire, mais en général, ça ouvre des portes incroyables sur peut-être un monde auquel les gens n'avaient pas accès avant.
Pour l'arrêt du tabac aussi, ça fonctionne, j'imagine.
Oui, bien sûr, l'arrêt du tabac. Donc, faut savoir que la cigarette, c'est souvent une béquille dans sa vie. Ce que je dis souvent à mes patients, c'est la cigarette, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller voir la partie immergée, donc sous l'eau, donc l'inconscient, oui. Et voir ce pourquoi on fume et toutes les fonctions de ces cigarettes, en fait. Donc, les gens sont souvent très étonnés parce qu'ils venaient vraiment pour l'aspect magique de l'hypnose et ils découvrent qu'il y a peut-être des petits problèmes à régler avant que la cigarette ne saute.
Ouais. Notamment le stress.
La gestion du stress, évidemment. Mmh. Ça, c'est capital. Et l'hypnose permet vraiment de s'apaiser et de... Et très vite, moi, je donne des outils aux gens, des techniques d'auto-hypnose aussi pour quelle que soit la situation, la personne puisse vraiment lâcher.
Alors, justement, tu parles d'auto-hypnose. Est-ce qu'on peut s'hypnotiser soi-même ?
Oui, on peut s'hypnotiser soi-même. Et il suffit tout simplement de regarder les nuages, d'écouter les oiseaux et de se calquer, par exemple, à la qualité de sa respiration pour qu'immédiatement pouvoir débrancher avec le mental et donc l'émotionnel.
Alors, est-ce que la clé de l'hypnose, elle se trouve là, dans décrocher le mental ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Le mental, c'est un moteur qui tourne non-stop et qui nourrit les émotions. Mmh. Et quand on est dans ce moteur non-stop, mental, émotion, on tourne en rond. Mmh. Et on n'a pas accès à des ressources profondes, à ces ressources profondes.
Et qui sont là, en fait.
Qui sont là et qui sont universelles. Qui sont là en soi, mais qui sont aussi dans l'univers, en fait. Hein.
Oui. Je vois l'idée d'un tout un peu, d'un tout dans nous et d'un tout dans ce qui nous entoure, en fait.
Ouais, nous faisons partie de cet univers.
Donc, Swazik, donc tu es hypnothérapeute, mais aussi coach holistique, ce qui veut dire que tu as d'autres techniques que l'hypnose à ton répertoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors je pratique la PNL, qui est une technique de communication. C'est de la programmation neuro-linguistique, c'est un terme un peu barbare, mais qui permet vraiment de bien se connaître soi, de pouvoir rentrer dans le modèle du monde de l'autre aussi. Souvent, les gens s'imaginent tous qu'ils fonctionnent de la même façon, et non. Mm-hmm. Hein, donc, ça amène beaucoup de tolérance, en fait, et de compréhension de la multiplicité des modes de fonctionnement de l'être humain. Je pratique la communication non-violente, qui est capital dans ce monde. Si on veut que le monde change, c'est très très important d'apprendre à communiquer, et c'est vrai que dès l'enfance on devrait vraiment inculquer ça aux enfants. Donc il y a toute une rééducation humaine à faire, hein. Et moi, ça me passionne vraiment de mettre de la conscience sur la manière de communiquer pour les gens. Je pratique aussi la fasciathérapie, qui est une technique c'est un toucher manuel très très doux, qui permet d'aller libérer les tensions profondes, physiques, psychologiques, émotionnelles dans le corps. C'est vraiment un toucher de bien-être.
Mm-hmm. Est-ce que ça se pratique sur le corps complet ou fascia, c'est pour le visage ?
Alors, les fascias, ce sont les tissus conjonctifs de l'ensemble du corps.
Okay.
Et encore une fois, tout est relié.
D'accord. Hein ?
On peut avoir un petit problème au doigt de pied et en fin de compte, l'origine peut venir d'une grosse tension crânienne. Enfin, je schématise, mais c'est comme ça que ça marche.
Ok.
Voilà, donc tous ces outils, en fait, tu les mets au service de l'hypnose. Tu peux proposer aux personnes en fonction de leur état ou de ce qu'ils ont besoin.
Oui, bien sûr. Je ne pratique pas d'emblée l'hypnose. Je fais un diagnostic. Et à travers cet échange que nous avons, je mets en place l'outil principal qui va permettre de libérer, d'apporter du bien-être. Mais l'hypnose rentre toujours dans la séance, mais peut-être pas en prime abord.
D'accord.
Alors voilà des outils vraiment passionnants qui vont nous permettre de nous sentir mieux au quotidien. En tout cas, merci beaucoup Swazik de nous avoir éclairé sur cette technique. Et puis, au plaisir donc de te retrouver. Si vous souhaitez en savoir plus et recevoir une séance d'hypnose sur Tours et Amboise, vous pouvez contacter Swazik Kariou à ce numéro 06 20 54 64 91 et consulter son site sur www.hypnose-tour-amboise.fr.
Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site de la RAGE, donc la-rage.fr. Merci Swazik d'être venu. Merci Céline pour ton émission.
Merci.
Merci Céline. Merci Maëva pour votre accueil. À très bientôt.
À très bientôt.